Momentum Energy is 100% owned by Hydro Tasmania, who in a single hour make enough renewable energy to fill 400,000 bathtubs with freshly popped popcorn, or spin 200 million disco balls all at once, or power an army of 10 million robot vacuums ready to take over the world! Or just help keep your leftovers cold. Either or. For a power company backed by someone who can do all that, switch to Momentum Energy. 100%.
Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/French.
Europa Voice numéro 173. Et comme à l'accoutumée, je suis avec mon grand ami Nathanaël Bloch. Salut Nathanaël.
Salut Christophe.
Alors, semaine compliquée dans l'actualité, semaine difficile. On a deux sujets pour vous aujourd'hui dans cet épisode d'Europa Voice. On va bien sûr revenir sur les attentats, donc l'attentat de Bondi et ses répercussions au niveau politique à la fois en Australie et en Europe. Et en deuxième partie d'Europa Voice, nous parlerons de dermatose nodulaire, qui est le sujet de discussion en France en ce moment et qui s'extrapole sur le traitement des agriculteurs et le traitement d'une crise comme celle-ci. Nathanaël, premièrement, on va revenir, bien entendu, sur ce qui s'est passé ce week-end dernier à Bondi. On va rester d'un point de vue d'une analyse politique. On n'est pas là pour parler vraiment nécessairement de l'acte en lui-même. On sent quand même que tout de suite après les faits, ça a mis un coup de projecteur sur le gouvernement quand même.
D'abord, Christophe, je veux évidemment avoir une pensée pour tous ceux qui ont été affectés par ce terrible attentat antisémite de Bondi. Et effectivement, ce qui s'est passé à Sydney a un petit peu tout chamboulé en cette fin d'année en Australie. Ça inclut également l'agenda politique, Christophe. Il ne pouvait en être autrement, parce qu'il faut le rappeler, c'est la plus grande tuerie de masse en Australie depuis les événements tragiques de Port Arthur en Tasmanie.
C'était en 96. Hein.
Voilà, donc il y a même plus de 20 ans de cela. Presque 30 ans. Et donc forcément, on est peut-être, j'allais dire malheureusement, trop habitué à ce genre d'attentats terroristes en Europe, mais pour l'Australie, à l'échelle de l'Australie, et à juste titre, c'est un traumatisme qui va bien au-delà, hein, de la communauté juive, Christophe, c'est un traumatisme national, et ça a mis un sérieux coup de projecteur aussi, alors pour certains, sur l'inaction du gouvernement travailliste aux responsabilités, et pour d'autres sur la nécessité de faire encore plus. Mais il est évident ça va pas être un peu bateau, mais qu'il y a eu un avant et qu'il y aura un après cet attentat terroriste antisémite de Sydney.
Alors si on prend tout d'abord au niveau du gouvernement, la réaction du gouvernement d'Anthony Albanese, on a réagi comment? Comment vous jugez en tant que, si juste je vous demande de mettre votre casquette de communicant de crise, on va dire là-dessus pour parler de ça, comment cette gestion de ce drame a été fait par rapport au gouvernement?
Alors il faut peut-être, Christophe, sur ces questions-là, distinguer deux choses. La première chose, c'est la réaction, j'allais dire, immédiate du gouvernement albanaisie, finalement, et des gouvernements d'État hein, aussi, hein, je pense au premier du New South Wales, Chris Minns, a été ce qui peut être attendu d'un politique au pouvoir, c'est-à-dire, encore une fois, de chambouler hein, tout l'agenda politique, de se rendre sur place, à la fois sur place au niveau là où le drame s'est déroulé, mais se rendre aussi auprès des acteurs, de ceux qu'on a pu qualifier de héros, qui ont pu sauver des vies, donc notamment à l'hôpital, aux hôpitaux de Sydney, et puis aussi de ne pas oublier de remercier ceux qui ont encore une fois soit permis que ce drame n'ait pas été plus grand, ou en tout cas qui ont assuré les premiers soins, et notamment je pense à cette visite aux hôpitaux faites par le Premier ministre australien Albanese. Donc sur cette réaction-là, première chose à distinguer, effectivement, le temps s'est arrêté, mais un petit peu comme le temps s'était arrêté, Christophe, quand il y a eu le Bataclan, par exemple en France, ou l'Hypercacher, ou Charlie Hebdo, on a vu vraiment les politiques, c'est normal, naturel, prendre la mesure des choses. Le deuxième aspect qu'il faut distinguer, et c'est là où, à mon avis, ça va devenir, et je parle en tant que communicant politique, en tant que communicant de crise, c'est là où ça va devenir compliqué, c'est-à-dire que il y a eu, dès les premiers instants, déjà, une opposition frontale entre les critiques qui ont été faites, apportées au gouvernement albanaisie et au manque d'action, au manque de réaction face aux signaux faibles sur les questions d'antisémitisme. Et malheureusement, la liste est longue, hein, comme le bras. Hein. Et ça, très tôt après l'attentat antisémite de Bondi, le gouvernement d'Albanie a été pointé du doigt, pas seulement par la communauté juive en Australie, hein, mais par les Australiens au sens plus large, par évidemment l'opposition politique. Et très rapidement aussi, ce qui est un peu surprenant, et là, je prends une casquette de communicant de crise, c'est qu'au lieu de finalement d'accepter ou en tout cas d'ingérer ces critiques-là et puis d'y revenir le temps voulu, c'est-à-dire après le temps de la commémoration, très vite en fait, le gouvernement albanaisie s'est braqué et a contesté les critiques d'inaction qui lui ont été faites. Et c'est là où, à mon avis, il y a une dichotomie et un fossé qui va malheureusement être de plus en plus grand. C'est que il y a déjà plus tellement de lieux de parole, de lieux de dialogue. C'est-à-dire que pour ceux qui pensent qu'il n'a pas assez fait, Albanese a tout de suite répondu que si ce qu'il a fait est suffisant, mais qu'il va falloir faire plus. Et à mon avis, voilà, d'un point de vue politique, c'est là où ça va être intéressant de regarder ces prochaines semaines, une fois le temps, j'allais dire, des commémorations passées, une fois le temps du chagrin et les premiers jours, de voir en fait comment ce fossé, à mon avis, encore une fois, sans lire dans les boules de cristal, ce fossé va être non guérissable. Il va y avoir toujours maintenant cette présomption faite. Alors, certaines présomptions peuvent être justifiées, d'autres seront plus opportunes, hein, notamment de la part de l'autre camp politique, mais à mon avis, c'est là où il y a eu un traitement différent, une réponse politique très différente. Si on pense par exemple à Charlie Hebdo, si on pense au Bataclan, il y a eu très peu d'accusations, Christophe, d'une inaction du gouvernement Hollande ou du fait que le gouvernement Hollande n'ait pas fait assez. Ça, c'est pas vraiment venu sur la table. Et là, très rapidement, ici, en Australie, c'est venu sur la table. Et à mon avis, ça, c'est un point essentiel en termes d'analyse politique pour les prochains jours et les prochaines semaines.
Et du côté de l'opposition, Suzanne Ley, assez rapidement quand même, a aussi critiqué le gouvernement d'Albanese. Pour vous, c'était opportun? Comment vous voyez cette prise de parole? Parce que c'était presque 12 heures après l'attaque, simplement.
Je pense que l'opposition, Christophe, elle est aussi un peu dans son, j'allais dire, dans son rôle, non pas d'émettre les premières critiques par rapport au gouvernement albanaisi, mais en tout cas d'appuyer les critiques qui sont faites, encore une fois, que ce soit par les membres de la communauté juive ou par les membres des communautés en Australie de manière plus générale. Alors effectivement, il y a toujours cette question de est-ce qu'on commence déjà à critiquer alors que l'attentat a eu lieu quelques jours avant. Voilà, ça c'est chaque leader politique avec sa conscience, mais en tout cas le paysage australien tel qu'il est fait aujourd'hui, c'est-à-dire d'avoir des gouvernements à la fois fédéraux et d'État à très grande majorité, si c'était entièrement travailliste, fait que effectivement l'opposition a plus de facilité à pointer du doigt, selon ses dires, hein, les manquements, les non-réactions aux avertissements, aux signaux faibles, etc. Alors Suzanne Ley, elle est aussi contestée dans son camp. Certains se demandaient si elle allait passer Noël en termes de leadership politique. Et donc ça va être aussi une question qui va être intéressante d'un point de vue de la communication politique à analyser, Christophe. Est-ce que finalement cet épisode-là va faire que l'opposition se structure un peu différemment? Et je prends juste un exemple qui est lié à ce qui s'est passé à Bondi. C'est que Albanese avait nommé une émissaire, une représentante sur les questions justement d'antisémitisme et d'apporter une feuille de route pour trouver des réponses et lutter contre l'antisémitisme en la personne de Gillian Segal, qui est une équivalente de haute fonctionnaire australienne. La feuille de route que cette dernière avait proposée n'a pas été suivie et a été complètement détricotée de ses principaux éléments. L'opposition, une des premières choses que l'opposition a dites, c'est qu'ils vont monter leur propre task force, leur propre feuille de route sur ces questions-là. Et donc ça montre que peut-être d'un point de vue opportunistique, mais en tout cas en termes de momentum politique, l'opposition a bien compris que c'est un sujet sur lesquels il y a des trous dans la raquette du côté du parti en pouvoir, et ils vont s'en saisir. Alors, est-ce que ça va leur apporter des bénéfices? Est-ce que ça va leur permettre de résister aux prochaines élections d'État, notamment le Victoria, et de re-remporter le Victoria l'année prochaine? C'est trop tôt pour le dire. En tout cas, cette séquence, elle crée en termes de momentum politique aussi des opportunités pour l'opposition de se structurer et d'apporter des réponses qui sont différentes par rapport à ce que les travaillistes au pouvoir, eux, apportent, et notamment sur ces questions de lutte contre l'antisémitisme depuis le 7 octobre 2023.
Juste pour conclure sur ce sujet, la réaction à travers le monde et en Europe, plus particulièrement ce podcast s'appelle Europa Voice, on a bien vu, hein, tout le monde a condamné bien entendu l'attaque, tout le monde était aux côtés des Australiens. Comment vous la jugez, vous, cette réaction européenne par rapport à l'attaque qui est une première, notamment première en Australie?
Je crois que la réponse ou les réactions des leaders, notamment européens, elle est finalement assez forte. Et unanime. Ça rappelle des souvenirs, en fait. Christophe, c'est souvent on a tendance à parler du cynisme des dirigeants politiques, etc. Mais si on prend l'exemple français, l'exemple allemand, l'exemple anglais, sur tous ces territoires, ils ont connu des choses similaires. Et donc, forcément, en tant qu'homme, en tant que leader politique, ça leur rappelle des choses. Ça leur rappelle des sujets dont ils ont eu à traiter aussi en tant que leader politique. Et donc, je crois que c'est une réponse assez sincère. Et je crois surtout que c'est, j'allais dire, une vague de condamnation, des réactions qui sont foncièrement celles d'hommes et de femmes politiques qui eux-mêmes ont été au pouvoir à ce moment-là.
Bon, voilà ce qu'on pouvait dire un peu sur, en tout cas, la réaction et l'analyse politique. Merci Nathanaël d'avoir fait cela pour nous. Hein. C'est jamais simple d'analyser une réaction politique globalement à chaud. On n'est que quelques jours donc après le drame. Donc merci Nathanaël pour ça. C'est la fin de la première partie d'Europa Voice. On fait une courte pause et on se retrouve en deuxième partie avec un sujet difficile. Lui également, la dermatose nodulaire en France. On se retrouve dans quelques instants.
SBS French. Mardi, jeudi, samedi et dimanche, à 13h ou à tout moment, en ligne.
Hello Frankston. Your Coles is better than ever with a new look deli, bakery and much more. Get all your entertaining needs just in time for Christmas. Visit Coles at Bayside Shopping Centre today.
Momentum Energy is 100% owned by Hydro Tasmania, who in a single hour make enough renewable energy to fill 400,000 bathtubs with freshly popped popcorn, or spin 200 million disco balls all at once, or power an army of 10 million robot vacuums ready to take over the world! Or just help keep your leftovers cold. Either or. For a power company backed by someone who can do all that, switch to Momentum Energy. 100%.
Deuxième partie de cet Europa Voice numéro 173. Je suis toujours avec Nathanaël Bloch. Ça va Nathanaël?
Ça va Christophe.
Allez, on va parler maintenant de dermatose nodulaire. Alors je tiens à le dire, c'est un terme que je ne connaissais pas il y a encore 15 jours. Et là, c'est une maladie qui attaque les bovins à travers l'Europe. C'est une maladie qui vient d'Afrique. Et on peut discuter et débattre du réchauffement climatique qui aurait permis en tout cas le développement de cette maladie en Europe. Toujours est-il que ça touche une partie de la France, notamment vers les Alpes, et ça cause énormément de problèmes parce que la décision du gouvernement français a été d'abattre les cheptels à chaque fois qu'il y avait un bovin malade dans le cheptel, parce que ça se propage énormément. Et bien entendu, c'est pas du tout au goût des agriculteurs, et on sent qu'il y a une révolte qui gronde là.
Oui Christophe, alors je vais vous rejoindre, si ce n'est quelque chose que je fais souvent, sur un point, c'est je ne connaissais pas non plus ce terme et cette maladie de dermatose nodulaire. Mais donc c'est aussi ça l'avantage d'avoir ensemble créé ce podcast d'Europa Voice et pour SBS, c'est de faire connaître des sujets dont on n'aurait peut-être pas parlé autrement. Voilà, ça c'était pour la petite parenthèse heureuse sur le sujet en lui-même, qui est évidemment bien plus grave. Effectivement, c'est une maladie. Alors, peut-être première chose aussi pour dissiper un petit peu les théories, etc. C'est transmis par les moustiques aux animaux. C'est une maladie qui n'est pas transmissible à l'homme.
Ouais, tout à fait.
Et donc ça, c'est aussi
un très transmissible entre bovin à bovin.
Alors, c'est très transmissible entre bovin et bovin, mais c'est aussi un petit peu pour comprendre la décision, j'allais dire, du gouvernement, en tout cas comprendre aussi les critiques qui sont faites. C'est un point important voilà, de préciser que c'est une maladie qui se transmet de bovin en bovin, enfin de moustique d'abord au bovin, et ensuite de bovin en bovin, mais qui est une maladie qui n'est pas transmissible à l'homme. La question aussi, enfin ce qui fait aussi débat, Christophe, c'est que les organisations agricoles, les éleveurs, etc., elles n'ont pas toutes non plus le même avis sur la question. Et donc ça, c'est pour moi aussi un élément extrêmement important pour comprendre un petit peu la crise, parce que c'est une crise qui a lieu actuellement en France, c'est que comme on n'a pas de position alignée entre tous les acteurs, chacun en fait voit midi à sa porte, en tout cas chacun va prendre l'analyse qui lui convient. Donc ceux qui, pour qui il faut être dans cette politique d'abattage systématique des cheptels, versus ceux qui sont pour une isolation, en tout cas qui sont pour des solutions qui peuvent paraître moins drastiques. Et c'est ça aussi qui fait que finalement la crise se développe, c'est que quand on n'a pas, et on l'avait vu pendant le Covid, si on veut faire des comparaisons sanitaires d'une certaine façon, le fait de ne pas avoir forcément d'alignement sur les origines d'un problème sanitaire, le fait d'avoir ce qu'on appelle en communication plusieurs sources de référence qui ont des avis différents, ça, pour l'ensemble de la population, ça crée aussi de l'incertitude de laquelle découle aussi des critiques plus ou moins acerbes, allant jusque certaines fois à des théories du complot. Bon, on ne met pas encore là, mais en tout cas voilà, les questions autour de la dermatose nodulaire, de par sa nouveauté aussi au sein de l'opinion publique, fait que la crise atteint peut-être un niveau qui est un petit peu supérieur à certaines crises sanitaires du passé, notamment je pense aux crises par rapport
à la grippe aviaire.
À la grippe aviaire, voilà, c'est exactement ce que je cherchais, où finalement, et malheureusement, c'est des choses dont on a déjà entendu parler, on a peut-être un peu plus d'historique, même pour le citoyen lambda.
Cette maladie a fait peur aux autorités, a fait beaucoup moins peur aux agriculteurs. Ils disent que eux, ils peuvent la gérer. Il y a une campagne de vaccination qui a été faite en Suisse. L'Europe a eu différentes approches. L'Espagne, l'Italie ont fait exactement comme en France. Ils ont abattu les cheptels. La Suisse a choisi de vacciner. En France, on va vacciner 750 000 bovins, je crois. C'est deux approches complètement différentes. Il n'y a pas forcément une approche unie européenne sur cette question. En ce moment, c'est tout neuf en fait.
C'est tout neuf, Christophe. Et puis aussi, sur ces questions de stratégie de vaccination actuelle, d'abord, tout n'est pas non plus très clair. Enfin, encore une fois, quand il y a des nouveautés comme ça qui viennent et qui viennent percuter l'agenda politique, qui viennent percuter aussi le citoyen, le téléspectateur, le Français moyen, comme c'est nouveau, il y a plein de choses sur lesquelles les gens veulent peut-être comprendre plus. Sur cette question de vaccination, puisque c'est de ce dont il s'agit, d'abord, il y a un périmètre. Alors, le périmètre, il est établi à 50 km autour des foyers infectés. Il a été élargi à plusieurs départements. Mais alors, voilà, pourquoi 50 km? Pourquoi pas moins? Pourquoi pas plus? Il y a plein de questions qui se posent autour de ça. Ensuite, sur la vaccination en tant que telle, Christophe, les effets de cette vaccination, elles ne se manifestent pas non plus immédiatement. Il faut attendre, selon des avis de différents experts dont j'ai vu justement essayer de recouper pour avoir une position, unanime, il faut un peu moins d'un mois. Il faut entre 21 et 28 jours après l'injection pour que les effets de la vaccination se manifestent. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant ce temps-là, il y a quand même une période de vulnérabilité, durant laquelle les animaux peuvent être infectés. Alors, on fait quoi? Alors, est-ce qu'on les abat pas? Est-ce qu'on les isole? Voyez, donc c'est la question de la vaccination, c'est une solution qui est apportée, mais d'abord c'est une solution qui ne répond pas à toutes les problématiques actuelles, et puis surtout c'est une solution qui ne répond pas non plus à l'arrêt ou en tout cas au ralentissement de la contamination le temps que cette vaccination fasse effet. Et donc de là découlent aussi d'autres questions pas moins importantes, Christophe, notamment pour cette population agricole qui est déjà en fait en souffrance en France, qui est déjà une population, fragile. Il y a la question des indemnités. C'est-à-dire que si l'État, Christophe, décide d'abattre un cheptel pour des questions de salubrité publique, comment est-ce qu'on n'indemnise l'éleveur. Quelle bureaucratie on met en place qui ne soit pas à la fois trop lourde pour comprendre combien on doit indemniser l'éleveur. Alors, à l'heure actuelle, on fait venir des experts qui se rendent, qui évaluent chaque animal. Enfin, vous imaginez bien que c'est pas non plus d'un point de vue logistique simple. Et puis, à combien on évalue le préjudice pour une vache? Est-ce qu'on y a différents types de vaches de modèle? Enfin, vous voyez. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi dans ce genre de crise qui est un peu nouvelle, c'est qu'on voit aussi comment l'État est capable d'apporter une réponse. Et puis de ce qu'on ferait après peut-être cette crise, c'est-à-dire un retour d'expérience et de voir ce qui a été bien fait, ce qui a été mal fait et comment on fera mieux la prochaine fois.
Ouais, c'est vraiment un sujet intéressant parce que c'est du pur gestion de crise et ça touche au corps des agriculteurs. On sait que l'agriculture est tellement importante pour la France au sein de l'Europe, hein, à travers les décennies de la construction européenne. Et là, le gouvernement fait face à une énorme crise parce que tout le côté des agriculteurs n'est pas prêt à lâcher quoi que ce soit. On le sent. On sent que il y a un énervement total quand même là.
Ben, il y a un énervement total, Christophe. Et puis, peut-être pour nos auditeurs d'Europa Voice, d'SBS, le rappeler. C'est-à-dire que ça s'applique, ça concerne une population qui est déjà à fleur de peau par rapport, non pas forcément seulement au gouvernement Macron, mais par rapport au sort qui est réservé à la population agricole, aux éleveurs. Depuis ces dernières décennies. On sait déjà, encore une fois, que c'est une population, j'allais dire, fragile, parce que une population qui travaille énormément, une population qui est très peu indemnisée, une population surtout qui dont le travail n'est pas forcément reconnu. On ne va pas revenir, mais sur tout le débat entre le prix auquel les agriculteurs vendent leur matière, le lait par exemple, versus le prix auquel vous l'achetez, en grande surface. Enfin, il y a plein de débats. Puis il y a la question de l'Europe. En parallèle, ne l'oublions pas, Christophe, pour nos auditeurs d'Europa Voice et d'SBS, il y a la question des accords de libre-échange. On a parlé beaucoup ici dans Europa Voice, évidemment, de l'accord de libre-échange entre l'Australie et l'Union européenne. Là, il y a l'accord de libre-échange entre les États du Mercosur et l'Union européenne, avec tout ce que ça implique de risques. Alors, certains y voient des opportunités, mais les agriculteurs y voient avant tout des risques par rapport aux questions de level playing field, par rapport aux questions de concurrence déloyale. Et donc, toute cette crise bovine, toute cette crise autour de cette nouvelle maladie qu'on découvre finalement ensemble avec nos auditeurs de la dermatose nodulaire, elle s'inscrit dans un contexte qui est déjà, et j'ai pas peur de le qualifier comme ça, qui est déjà d'assez anxiogène pour les agriculteurs en ce moment, justement par rapport à ces autres questions auxquelles le gouvernement Macron doit apporter des réponses.
Absolument, et ça c'est une belle affaire à suivre parce que c'est vraiment il y aura pas une solution qui va être trouvée rapidement, c'est sûr, donc ça va rester dans l'actualité pendant plusieurs semaines. Merci Nathanaël d'avoir décrypté ces deux sujets pour nous cette semaine.
Merci beaucoup Christophe.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.
Hello, Frankston. Your cold is better than ever with a new look deli, bakery and much more. Get all your entertaining needs just in time for Christmas. Visit Coles at Bayside Shopping Center today.